Mémoire vive,
présentée par Christelle Le Polothèque
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Jean et Marie Weisslink pour leurs témoignages qui sont parus dans la collection Témoignages de la Shoah, qui est, je le rappelle, une collection de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, dirigée par Philippe Veil, une collection qui réunit les récits de victimes des persécutions perpétrées contre les Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, qu'il s'agisse d'anciens déportés, d'internés, d'enfants cachés ou de résistants juifs. Jean Weisslink, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier un livre d'entretien, Du fond de ma mémoire, entretien avec un survivant de la Shoah en Pologne, avec Pierre Lasserie. Et vous, Marie Weisslink, vous êtes là également aujourd'hui, vous avez écrit « Seul à 14 ans » de Ravensbrück à Bergen-Belsen. Aujourd'hui, dans cette première émission, nous allons tout d'abord nous intéresser à l'histoire de Jean Weisslink, à l'histoire de ce petit garçon né en Pologne en 1926 et qui a traversé la guerre et la barbarie nazie. Une histoire que vous avez mis beaucoup de temps avant de pouvoir la raconter. Qu'est-ce qui vous a décidé, Jean Weisslink, à témoigner ?
Ben écoutez, tout le monde vieillit. Je me disais que si je ne le fais, si je ne me décide pas maintenant, ça sera après trop tard. Je n'en serai plus.
Alors, commençons par le début. Peut-être on peut parler de la vie que vous meniez avant la guerre, peut-être.
Ben oui, avant la guerre, c'est pas difficile. Mais mes parents, ils étaient commerçants, c'était des grossistes, enfin d'une très bonne situation. Et j'avais un frère, nous étions trois enfants. J'étais le dernier. Donc j'étais le plus choyé, en disant, parce que j'avais mon frère qui avait 16 ans de plus que moi, et ma sœur 13. Et moi, je suis arrivé après tout à fait le dernier, une surprise en somme. Jusqu'à la guerre, j'avais pas à me plaindre de mon sort.
Vous vivez à Lodz ?
Je vivais à Lodz même. Mes parents, ils étaient grossistes, en posserie. Bon, mon frère avait une usine, il avait combien ? 20 ans de plus que moi,
17,
je sais pas. Enfin, bon, moi j'étais toujours gamin. Enfin, quand je commence à comprendre quelque chose, c'était un homme. Donc, il faisait les tissages. Il faisait deux fois, il faisait la gabardine. Enfin, à l'époque, c'était la gabardine. Et enfin, du tissu. Tu sais, moi j'étais un gamin, j'allais pas souvent dans une usine de tissage. Mais enfin, d'après ce que j'ai entendu dire.
Il y a ce moment que vous racontez dans le livre, c'est le jour en fait où les Allemands sont entrés dans la ville, donc en septembre 1939,
oui. Oui.
Et vous ont demandé de saccager finalement votre classe d'école.
Ah ben oui, c'est-à-dire que nous étions, vous savez qu'en Pologne, avant la guerre, il y avait des écoles communales, ce que j'appelle les écoles communales, il y avait pour de juifs et pour de chrétiens. Donc, et puis il s'est trouvé, c'était pas voulu, enfin je pense pas que c'était voulu, il s'est trouvé que notre école, juxtaposée, était à côté de l'école de catholiques chrétiens, de polonais. Mais nous avons tous les deux des écoles polonaises, mais nous étions séparés par la religion, et c'était la loi à l'époque.
Et vous avez compris ce jour-là, quand les Allemands sont arrivés et vous ont demandé de saccager votre pupitre.
Voilà. Et vous... Alors, voilà comment ça s'est passé le jour qu'ils sont arrivés, le jour même. Ils sont arrivés le matin, en défilé, ils n'étaient pas arrivés en combattant. Le chemin était grand ouvert parce que l'armée polonaise était déjà battue. Ils sont arrivés comme en promenade de dimanche. Et alors, la première de juin, ils s'arrêtent. Et il y a un officier descend. Qu'est-ce que c'est ? C'est une école, où c'était une école communale, mais pour le juif. Bon, ben écoutez, alors le bonhomme il est descendu. Moi, j'étais un gamin, à l'époque, j'avais 13 ans. Donc, j'étais quand même gamin. Je finissais l'école communale, finissais à 14. Donc, j'allais rentrer dans la dernière classe de la communale. Et il s'est adressé à nous, très, très poliment, comme des Allemands à l'époque. Il avait vu qu'il avait affaire quand même à des enfants. Il me dit, bah, écoutez, vous savez que vous êtes juif. Carrément. Je crois que il s'est exprimé si vous êtes Juppin, je crois. Mais dans la langue allemande. Voilà.
Et alors que vous êtes juif, et de ces faits, vous n'avez pas le droit de continuer vos études. Alors vous allez descendre tout l'immobilier de votre classe, et vous allez le casser. Et c'est ce qu'on a fait, remonter. Avec mes copains de ma classe, enfin toute l'école a fait ça, moi je vous parle de ma classe. Et on a descendu tout nos immobiliers de la classe. Et on avait des haches, on nous a donné des outils pour casser, on a tout cassé dans l'école.
Et vous dites que vous avez compris ce jour-là, d'une certaine manière, ce qui vous...
Mais j'ai compris ce jour-là que nous avions... Est-ce que nous étions... Je me suis demandé pourquoi ils font ça. Est-ce que nous étions encore humains? Un garçon de 13 ans, il réfléchit, commence déjà à réfléchir. Mais on était plus mûrs. Je pense que c'est l'époque qui le voulait. Et étant donné que l'époque était beaucoup plus dure, alors les hommes sont comme ça, c'est comme des animaux. Et quand ils sont obligés de s'adapter à l'ambiance.
Vous aviez déjà senti l'antisémitisme?
Ah oui, mais là nous étions... Je pense qu'en Pologne c'était un peu spécial, parce que l'antisémitisme, nous nous sommes nés avec l'antisémitisme. Je pense que j'ai compris le jour que je commence à parler. Ils disaient, tiens, toi, t'es un saloupe. Hein? Voilà, comme le traiter. Et moi, malheureusement, j'ai mes parents qui avaient une bonne situation. Et cette bonne situation les a obligés de vivre dans un quartier non juif. Donc, j'habitais une maison et tous mes copains, ils étaient goy. Et moi, à l'époque, mon problème n'était pas celui des juifs. Un garçon de... Je commençais à comprendre quand on m'avait traité de saloupe, hein, si j'ose dire.
En 1940, votre famille... vous aviez 13.
J'avais 13 ans.
Et votre famille doit quitter, justement, cette maison dont vous parlez.
Eh bien, c'était vite fait. Je crois que ça durait quelques mois. Maintenant, vous voyez, j'avais 13 ans. Maintenant, j'en ai 90. Ça fait un moment que j'ai quitté la maison. Et je pense que ça durait quelques mois, deux ou trois mois, le temps de... Ils n'ont pas pensé à nous. Mais en deux ou trois mois, il fallait quitter la maison. Alors, ils se sont organisés, ils ont pris un quartier périphérique de Lodz, parce que c'était une ville qui avait, je crois, 800 000 habitants pour l'époque. C'était la deuxième ville et la première ville industrielle polonaise. Et c'était, il s'est trouvé qu'il y avait deux usines à perte de vue. Il y avait Poznański, je ne cite celui-là. Poznański, c'était une famille juive. Il y avait 15 000 ouvriers, enfin, pour vous donner la dimension et la notion de ces deux. Il y avait donc Poznański, il y avait Wizewska Manufaktura. Wizewska Manufaktur en yiddish, mais Wizewska en polonais, Wizewska Manufaktur, c'était une manufacture aussi qui appartenait à des juifs, à une famille juive, qui employait 7000 ouvriers, 10000 ouvriers, c'était quelque chose. De métiers de tissage, il y avait des métiers de tissage, le bloc de briques, c'était sur de centaines de mètres, enfin, moi, j'ai jamais vu en France des usines comme ça.
Vous restez finalement assez peu de temps quand vous avez dû aller vous installer avec votre famille dans le ghetto, puisque votre père avait réussi à avoir des papiers, c'est ça?
Mon père, bien sûr, c'était à l'époque, on disait un possédant. Donc il avait un peu plus de moyens, parce que de fait qu'il avait... Bon. Alors il a trouvé des gens qui ont fait des faux papiers, mais c'était très très difficile, étant donné, même ici je crois un Français ne reconnaîtrait pas un juif facilement, parce qu'on s'est coulé dans le moule. Mais le juif polonais, il vivait avec un siècle de retard, je pense, avec le recul. Je vois, ils avaient leur mode de vie, ils avaient leur habillement, tout était que le bonhomme, n'importe quel paysan, il reconnaissait un juif.
Pourtant vous étiez assimilé.
J'étais assimilé, mais pas suffisamment pour le polonais. J'ai ouvert la bouche, peut-être. Non, je parlais. J'allais dans une. Non, mais je parlais yiddish, mais à la maison, non, on parlait déjà parce que de fait de la situation, vous voyez, on parlait déjà un peu plus. Il y avait une bonne à la maison. Bon, on parlait, j'avais la bonne qui était d'origine allemande même, à l'époque, avant Hitler, je parle. Mais bon, j'avais déjà le contact. Mon père, il avait les deux habits. Il avait ce qu'on appelle l'habit civil européen et l'habit des juifs d'époque, avec le caftan noir. Mmh. Bon, quand il allait à la choule, voilà, bon, il s'habillait. Bon, il était gabe d'une choule. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est gabe. C'est d'une. Il était responsable, si vous voulez, mais honorifiquement.
Assez rapidement, vous vous retrouvez seul, puisqu'il y a notamment, il y avait votre frère. Hein,
mais mon frère, je l'ai perdu très vite. Je ne sais pas, moi j'étais gosse, je vous parle à l'époque. Ouais. Et lui, c'était un adulte, parce que c'était l'aîné de la famille, je crois, 18 ou 20 ans.
17.
Enfin, 17 ou 18, enfin bon, je ne sais pas. Je me rappelle, quand je commence à comprendre, lui c'était un homme.
Bon, qu'est-ce qu'il a fait là,
Bon, le jour que la guerre a éclaté, le lendemain, il voulait rentrer dans son propre usine, heureusement qu'il se méfiait, et le gardien de l'usine était d'origine allemande. Et l'autre, il l'est guetté. Il aurait descendu tout de suite. Mmh. Et quand il avait vu que l'autre était à la porte et il se méfiait, Il a fait un demi-tour, il rentre à la maison, et moi j'étais gamin, je ne sais pas, j'étais grand comme ça. Et puis il y a ma mère qui lui demande, mais qu'est-ce que tu fais, David? Alors il dit, fourre avec. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous parlez l'idée, je vous parlais l'idée, non. Je m'en vais. Je dis, comment tu veux? Tu t'en vas, où est-ce que tu vas? Je ne sais pas, je ne rentre pas dans mon usine. Je vais être fusillé, je perds d'être fusillé à toute split. Il s'est habillé, il a pris les papiers, il a pris tout le reste, se croyant en sécurité. Il a pris le train.
Il est parti avec sa femme.
Il a pris avec sa femme, venait de se marier. Et ils sont partis. Et je n'ai jamais plus eu de nouvelles. Donc, est-ce qu'il a été fusillé? Est-ce qu'il a réussi de rentrer? Parce qu'il fallait passer. Nous étions à Lodz. Et il fallait passer par le sud pour passer en Union soviétique. C'était le Volga. Il y avait une rivière qui s'appelait Volga. Et il devait avoir des passeurs pour pouvoir passer du côté soviétique. Il croyait qu'il se sauverait. Or, je n'ai jamais eu aucune nouvelle. Alors, est-ce qu'il est tombé sur des passeurs polonais qu'ils ont défleuré une bonne affaire? Ils ont descendu, ils ont pris tout ce qu'il avait sur lui. Enfin, ni lui, ni sa femme, on n'a jamais eu de nouvelles. Perdu, corps et biens.
Alors j'aimerais qu'on revienne peut-être un peu à votre destin à vous, hein, à ce moment-là.
Mon destin à moi.
Votre père est arrêté par la Gestapo, vous avez 14 ans et vous vous retrouvez aéré tout seul.
Aéré tout seul, bien sûr. Alors bien sûr, moi j'habitais, ma chance était celle-ci. Je parlais le polonais, même pour de juifs de Pologne. À la maison, on parlait yiddish. Moi, étant donné qu'à la maison, j'avais cette bonne allemande, parce que ma mère, il travaillait en couple, et il y avait des employés, parce que il était grossiste, donc il fallait que quelqu'un soit là, soit là, j'imagine, parce que moi, je ne fréquentais pas. Bon, c'était pas mon âge. Et. Bon, où est-ce que je suis?
Vous parlez polonais et donc vous êtes
seul.
Vous
vous retrouvez seul après l'arrestation de votre père.
Alors, pardon. Il faudrait peut-être qu'ils disent que sa mère était au ghetto de Lodz. Et là, elle est tombée malade et il a su qu'elle a disparu, qu'elle est morte dans le ghetto. Sa sœur, qui avait un petit garçon, était avec son mari également dans le ghetto. Et après, il a su que quand on a vidé le ghetto, sa sœur avec son enfant est partie à Auschwitz. Et bon, c'est pas la peine que je continue. Et son beau-frère, il l'a rencontré après. Alors là, j'anticipe. Hein. Il l'a rencontré quand même dans un camp. Et bon, et puis après.
Mais le camp,
est... il a perdu de vue.
D'accord.
Et personne n'est resté vivant. Voilà. Et il n'y a que lui.
De
on ne sait pas pourquoi. Il était avec son père. Son père avait s'était procuré des faux papiers pour lui-même et pour son fils.
60 ans après, je pleure, je suis à la
Et puis alors, bon, il travaillait à l'extérieur du ghetto. Et il y a eu un Allemand qui a été fusillé.
Ah oui, c'est ça.
Alors, son père et lui. Était dans un, comment on appelle ça, dans un tramway. Mmh. Ils ont arrêté le tramway et ils ont pris comme otage toutes les personnes à l'intérieur. Et c'est là où il a été séparé de son père et où il ne sait pas ce qu'il est devenu, mais bon.
Il était arrêté.
Voilà. Et il s'est retrouvé tout seul à ce moment-là. Il a commencé à errer. Donc,
c'est ça, oui. Vous dites dans le livre que vous avez vécu dans des granges, vous avez passé des granges. Et puis
chez les paysans, quand ils voulaient bien.
Quand ils voulaient bien.
Quand ils voulaient bien.
Et puis finalement, vous avez été arrêté et envoyé dans un camp de travail, mais pour les Polonais, dans un premier temps. Mmh. Et c'est de là qu'ensuite, en 1944... vous êtes envoyé à Auschwitz. Vous souvenez comment ça se passe
À la liquidation du ghetto,
ouais.
Ils ont décidé de liquider le ghetto et tout le monde est parti à Birkenau. À Auschwitz-Birkenau. Et c'est là que je me suis retrouvé et on m'avait fait le 8580 à Auschwitz.
Là, vous avez 17 ans.
Oui.
16 ans, 17 ans. Vous êtes envoyé dans les commandos, c'est ça?
J'étais envoyé d'abord dans le travail des commandos, bien sûr. Là-bas, ils appelaient tout commando, mais enfin, bon.
Et vous avez travaillé ensuite dans une usine de chemin de fer?
De chemin de fer, ouais. Pour Hermann Göring-Werke.
Oui, vous le rappelez effectivement que c'était là. Et puis, il va y avoir cette marche de la mort pendant
30 jours. De la mort, 30 jours.
En plein hiver.
En plein hiver.
Il y avait 1860 prisonniers au début. Et puis, quand vous arrivez à Burnvan, il ne reste que 163 personnes.
163 personnes.
Et vous êtes un jeune homme de 17 ans à ce moment-là.
De 17 ans. On a traversé la forêt noire. Alors, je ne sais pas. Mais il y avait... que de la neige. On n'avait jamais trouvé autre chose que de la neige. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont fait passer? Mais ils n'avaient plus besoin. Les gens, ils tombaient comme des mouches. Parce qu'il fallait se lever de bonne heure. Avec la levée du jour, il fallait... Alors, on dormait dans les granges. Parce qu'on nous accueillait dans les granges. Imaginez-vous une grange ici. Et imaginez-vous une grange là-bas. Quand il fait moins 20 ou moins 30. Alors, et sans manger. Alors, la seule chose que je faisais, quand j'ai trouvé, on était deux ou trois copains qu'on s'était liés à la vie, à la mort. Chacun, on est de l'autre. C'est pour ça que j'ai survécu. Autrement, je certainement pas là à vous le témoigner maintenant, avec tant d'années après. Et on a essayé, on a essayé de se faire un trou dans le foin ou dans la paille, et puis rentrer dedans, et puis on dormait. Autrement, c'était pas possible. Et alors le matin, on faisait l'appel. Alors tous ceux qui pouvaient se mouvoir, ils sortaient. Et ceux-là, les autres, ils restaient sur place. Et il n'y avait plus rien. Alors on est parti, je ne sais pas, je vous ai dit combien, 1800, je crois.
Ouais, 1860. Ouais,
1860, on est arrivé à 100...
160,
ouais. Vous racontez avec le sucre que vous aviez...
Ah
sucre.
Oui, j'avais un peu de sucre. Alors on avait trouvé, un copain avait trouvé le sucre. Comment est-ce qu'il a trouvé? Je ne me rappelle pas. Enfin, il l'avait trouvé. Et nous étions vraiment liés, trois ou quatre copains. Alors, ils m'ont confié à moi, et certainement qu'ils aient eu confiance en moi. Ils m'ont donné ce sucre, je l'ai gardé sur la poitrine, en dessous. Et tout le matin, je leur donnais un peu... on a partagé trois ou quatre cuillères de sucre pour se donner un peu plus de courage pour pouvoir tenir le coup.
Puis c'était de la nourriture.
Oui, nourriture, en fait, tu sais, ça ne remplissait pas l'estomac. Oui, enfin, bon, ça nous donnait peut-être un peu d'énergie parce que ça...
Mais vous avez le sentiment que c'est cette camaraderie aussi.
Ah oui, sans cette camaraderie, je serais pas là aujourd'hui pour vous témoigner.
C'est là que vous avez rencontré Vacek ?
Non.
C'était à Bonfalt ?
Non, c'était, après ? Là, c'était un Polak.
Oui.
Voilà.
Je me suis posé la question, mais... C'est vrai, Vacek. Mais où l'as-tu connu? C'est ce que j'ai posé comme question à Jean. Et il ne savait pas. Il ne savait pas.
Dans un corps.
Alors, j'ai demandé à son fils. Bon, malheureusement, il est décédé parce qu'il était plus âgé.
Il y a 3 ou 4 ans, il a eu...
Oui. Mais il a laissé des écrits. Il a tout laissé. Alors, j'ai demandé à son fils, qui a regardé, et il a retrouvé, justement... L'endroit où ils se sont rencontrés, c'était un commando de Dora, que Jean avait totalement oublié, ça. Il avait occulté.
À force d'être sonné, parce que c'est...
Et possible. Ça a été également sa chance. C'est vraiment formidable, parce qu'il n'y avait pas tellement de solidarité entre déportés. Il faut dire les choses comme elles sont.
Entre...
Quand il y en a, très bien, mais je parle dans la majorité.
Entre les différents déportés, c'est-à-dire
les
politiques,
il n'y avait pas de solidarité, non.
Il y avait pas de... Chacun luttait pour sa survie.
Voilà.
Ce que j'appelle survie
chacun pensait à soi. Voilà.
C'était la survie.
Voilà. Et ce qui a été formidable, c'est que cet homme, c'était un jeune homme peut-être de 20 ans, 22 ans, je ne sais pas, ou peut-être de... Ne le connaissant pas, ne l'ayant jamais vu... Ayant un travail extraordinaire pour les déportés, il travaillait dans la cuisine
des SS.
Il l'a vu, pour comment ça se fait, qu'il a sympathisé.
Il m'a pris en pitié, certainement.
Moi, personnellement, c'est ce que j'ai toujours dit, il a eu pitié de lui. Parce que bon, maintenant, vous le voyez, il n'est pas très grand. Donc imaginez, à l'époque, encore moins. Il ne devait pas être très gros, au contraire. Donc, il l'a pris en pitié.
Il m'a pris en amitié.
Les deux, pitié, amitié. Et après, il lui a donné... Il lui sortait au dépit de sa vie. Parce que s'il s'était fait attraper, il était fusillé sur place. Et il sortait de la nourriture pour lui donner. Voilà, c'est ça que je trouve extraordinaire.
Et toute la vie, on s'est suivi.
C'est une des raisons pour lesquelles, justement, après la libération des camps, vous avez choisi de venir en France.
Mais c'est lui qui est venu en France. Il me dit, tu viens avec moi?
Non, lui avait été déporté, il avait fait de la résistance à Toulouse.
Ah, il était déjà en France pendant la guerre.
Il était en France.
Le Polonais, oui.
Il
est parti en 39 de la Pologne quand elle a été envahie par les Allemands. Il est parti... Alors, quand il était à Varsovie, quand il a vu que les Allemands arrivaient, il a pris ses pénates et il est parti vers la Roumanie. Il a fui. Il
avec
a fui la Varsovie. Parce que
Varsovie
était couverte de bombes tout le jour, de matin au soir. Ils ont détruit en 15 jours, il n'y avait plus rien. C'était une ruine. Alors, il est parti par la Roumanie et par toute la petite frontière, il est arrivé en France, en 1939.
Et il était à Toulouse, il faisait partie d'un groupe de résistance.
Là, qui s'appelait comment, vous savez?
Pardon?
Il s'appelait comment?
Nogal. Vincent.
Vincent Nogal. Enfin, en polonais, c'est Vacek. C'est pour nous, moi, je l'ai personnellement, je l'ai toujours appelé Vacek. Et là, le groupe a été dénoncé, arrêté, et il a été envoyé
en Allemagne.
En Allemagne, voilà.
Et du coup, après la guerre, vous saviez déjà que vous n'aviez plus de famille en Pologne, et du coup,
je suis sorti de Buchenwald par le grand portail. J'ai enlevé le grand portail avec deux copains. J'ai vu, on s'est levé le matin. Où est-ce qu'ils sont les SS, nom d'un chien? Et on entendait déjà la veille, on entendait déjà les chars, mais on ne le voyait que l'étoile blanche, mais de loin, peut-être d'un kilomètre de camp, parce qu'ils s'approchaient. Il y avait encore là les gardes SS qui étaient... Mais ils avaient peur de tirer un coup de fusil, parce qu'ils se seraient fait nettoyer proprement. Hein. Et puis, le lendemain, on voyait qu'il n'y avait personne. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sorti de camp.
Il n'y avait plus d'Allemands.
Il n'y avait plus d'Allemands. Il y avait le peu d'Allemands qu'il y avait. Ils cherchaient de vêtements pour se changer, civils, pour foucher le camp, quoi. Et c'est là où je suis parti carrément dans la forêt, sans le savoir, et par la porte centrale de Buchenwald.
Et vous avez été directement en France?
Pas directement.
Enfin, directement.
Ah oui, j'ai traversé à pied et en voiture. Je me suis fait prendre par les Américains quand il y avait de gros camions, là. Ils me permettaient deux fois, ils ne me permettaient pas. Deux fois, ils ne voulaient pas nous prendre. Alors, je faisais 50 km, 100 km, je ne sais pas. Je partais sans plan. Je voulais m'éloigner, c'était une hantise pour moi de m'éloigner de Buchenwald. J'avais toujours peur, à force d'y être là-dedans, vous avez comme un poids qui vous tombe dessus, vous avez toujours peur que l'Allemand est derrière. Et j'étais pas seul dans cet état d'esprit. À force d'avoir peur, à force de pour eux, la vie d'un prisonnier ou d'un retenu avec l'habit rayé, c'était quoi? Ça comptait pour rien.
Et du coup, vous n'avez pas été dans des camps de dipi, dans les camps de personnes déplacées?
Non, jamais. J'ai fui toujours. Mmh. Et j'ai dormi dans la forêt pour ne pas y rentrer, pour ne pas avoir peur.
Et là, il a abouti à Lille, où, miraculeusement, il rencontre...
Je passe par l'Allemagne, la Belgique. Et par la Belgique, j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire en Belgique? Non, je vais revenir. Je vais partir pour la France. Et à Lille, qui est-ce que... c'était Lille, oui. À la frontière. Je descends à Lille avec des camions militaires américains. Et qui est-ce que je vois? J'étais dans un... Je me retourne et je vois Vatsek.
Incroyable.
Et c'est comme ça que vous allez partir à Toulouse,
oui,
et rencontrer Marie.
Oui, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais moi, qu'est-ce que je fais là? Je fuis l'Allemagne. Eh bien, tu veux venir avec moi? Bon, mais je suis parti avec lui et je suis venu à Toulouse. Je savais même pas qu'elle existait sur la carte. J'avais aucun intérêt pour savoir si Toulouse existait à l'époque, vous savez.
Alors la suite, on en parlera dans la prochaine émission, l'émission qui sera donc consacrée à votre femme Marie. Je vous remercie en tout cas, on en reparlera dans la prochaine émission, je vous remercie en tout cas. Je rappelle que votre livre « Du fond de ma mémoire, entretien avec un survivant de la Shoah en Pologne » est paru dans la collection « Témoignages de la Shoah » publié par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et je précise qu'il y aura une présentation du livre le 6 mars prochain au Mémorial de la Shoah à Paris à 16h30. Nous retrouverons la semaine prochaine, donc pour parler cette fois du livre de votre épouse, Marie Weisslich, Seule à 14 ans, de Ravensbrück à Bergen-Belsen. C'était Mémoire vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web, radio-rcj.info ou mémoire vive au pluriel.net.